Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, les manœuvres militaires de la Russie dans le Caucase qui prennent fin aujourd'hui sous le regard de Vladimir Poutine. Alors que Moscou est soumis à une forte pression internationale sur plusieurs dossiers, le pays veut montrer de quoi il est capable. Vers des élections palestiniennes dans les 6 prochains mois, le Fatah et le Hamas se sont entendus sur ce point. Les deux factions ennemies veulent faire taire leurs dissensions internes pour réfléchir à une stratégie commune. Dans ce journal, nous retrouverons notre correspondante à Cuba. L'île caribéenne est visée par de nouvelles sanctions américaines décrétées hier par le président. Un nouveau coup dur pour l'économie cubaine. Et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur le pacte des migrations de la Commission européenne, sur les dispositions de ce plan, leurs implications, également sur ce concept de solidarité obligatoire entre États qui risque de devenir une solidarité à la carte. C'est en tout cas la crainte de Caritas Europa.
Radio Vatican, le journal. Manuela Figi.
Bonjour à tous. Caucase 2020, c'est le nom donné à ces exercices militaires massifs qui ont débuté lundi et se clôturent aujourd'hui en présence donc de Vladimir Poutine. Ces manœuvres annuelles imposantes provoquent l'inquiétude des voisins ukrainiens qui l'envisagent comme une provocation. Mais il s'agit surtout pour la Russie d'étaler sa force alors qu'elle traverse une séquence internationale difficile et d'afficher sa solidarité avec ses alliés. Les explications de Jean Cassé à Moscou.
12 900 soldats, jusqu'à 250 chars, 450 véhicules blindés, 200 systèmes d'artillerie, des avions, des navires de combat en mer Noire et en mer Caspienne. Les exercices militaires Caucase 2020 battent leur plein dans le sud de la Russie, alors que le président Vladimir Poutine a annoncé se rendre sur place ce vendredi. Des exercices prévus de longue date, mais qui tombent à un moment particulièrement opportun pour la Russie, alors que le pays, soumis à une forte pression internationale dans le sillage de l'affaire Navalny et sur le dossier Bélarusse, a plus que jamais besoin de montrer ses muscles. L'ennemi théorique de ces exercices n'est pas désigné, mais pour tous les observateurs sur place, la chose est évidente. Il s'agit de répéter un hypothétique affrontement avec les forces de l'OTAN. C'est aussi l'occasion de montrer la solidarité de la Russie avec ses alliés. L'Iran, la Chine, le Bélarus font partie des invités de ces exercices. Enfin, il est probable qu'à l'occasion de la visite de Vladimir Poutine, l'armée russe fera la démonstration de ses nouveaux systèmes d'armes, avions de combat Sukhoi 57, missiles hypersoniques, des armes que le président russe promet depuis plusieurs années et qu'il décrit comme invincibles. Jean Cassé, Moscou. Pour Radio Vatican.
Le dossier Bélarusse, une autre épine dans le pied de la Russie. Hier, juste presque à l'unisson, l'Union européenne et les États-Unis ont refusé de reconnaître Alexandre Loukachenko comme président du Bélarusse, pointant un manque de légitimité démocratique ainsi qu'une élection ni libre ni équitable. De sévères critiques que le principal intéressé n'a pas appréciées. Personne ne leur a demandé de nous reconnaître, a-t-il répliqué hier au lendemain de son investiture organisée en catimini. D'investiture, il en est question justement aujourd'hui au Mali et elle sera même double. Ce sont en effet le nouveau président désigné par la junte Ba Endo et son vice-président, le colonel Goïta, qui vont prêter serment. Aucun chef d'État africain n'est attendu pour cette cérémonie qui s'annonce sobre. La levée de l'embargo décrété par la CEDEAO est toujours en discussion. Le Fatah et le Hamas déterminés, semble-t-il, à mettre fin à leurs divisions internes, divisions qui accentuent la fragmentation géopolitique entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Réunis en Turquie, les représentants des deux factions ont annoncé l'organisation d'élections générales dans les 6 prochains mois pour consolider la réconciliation nationale et œuvrer à une stratégie commune pour l'établissement d'un unique État palestinien. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
Privé d'élections générales depuis les présidentielles de 2005 et les législatives de 2006, la décision des factions palestiniennes d'organiser 3 scrutins dans les 6 prochains mois doit permettre aux citoyens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza de renouer avec le processus démocratique comme ils le réclament depuis des années. Le premier scrutin devant être organisé visera à renouveler le Parlement pour consolider ainsi le processus de réconciliation nationale. Il sera suivi des élections présidentielles, puis d'un vote au sein de l'OLP que toutes les factions, y compris le Hamas et le djihad islamique qui n'en font pas partie, reconnaissent toujours comme l'organe suprême et unique de représentation de l'ensemble du peuple palestinien. L'organisation de ces scrutins se heurte cependant à divers obstacles, dont celui de leur tenue dans la partie occupée de Jérusalem depuis 1967, où Israël pourrait entraver la mise en place des bureaux de vote et l'inscription des Palestiniens sur les listes électorales. La haute responsable de l'OLP, Hanan Ashrawi, a appelé la communauté internationale à veiller à ce qu'Israël n'entrave pas le processus électoral. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
L'appel à l'aide de l'archevêque de Karachi au Pakistan via Caritas Internationalis, le cardinal Joseph Coutts attire l'attention sur son pays frappé par de violentes intempéries et inondations depuis 2 mois. On compte quelque 300 morts et plus de 200 000 habitations détruites. La Caritas locale est bien sûr présente auprès des populations durement éprouvées, mais cela n'est plus suffisant. Cuba fait les frais de la campagne pour les élections américaines. Donald Trump a annoncé hier de nouvelles sanctions contre l'île et son secteur touristique. Les Américains auront désormais interdiction de séjourner dans les hôtels d'État et de ramener aux États-Unis du rhum et des cigares. Une sanction qui, à long terme, aura un fort impact sur l'économie de l'île, où nous retrouvons notre correspondante Domiti Piron.
Plus d'hôtels, de tabac ni de rhum pour les Américains. Donald Trump vient d'annoncer de nouvelles restrictions contre le tourisme à Cuba. Des interdictions qui auront un impact concret sur les finances cubaines puisque tous les hôtels de l'île ainsi que l'industrie du tabac et de l'alcool sont propriétés d'État. Les Américains devront également désormais demander une autorisation spécifique pour voyager sur l'île pour des séminaires, compétitions sportives ou expositions. Ces mesures n'ont pour l'instant aucune répercussion puisque les frontières cubaines sont fermées pour cause de coronavirus, mais elles entrent en vigueur à quelques semaines de l'élection américaine et l'annonce a été faite devant un parterre de vétérans de la baie des cochons, cette tentative d'invasion ratée en 1961 par des cubano-américains opposés à la révolution et soutenus par les États-Unis. Pour Cuba, ces sanctions sont donc un cadeau évident à l'électorat de Donald Trump du sud de la Floride, où réside la majorité des cubano-américains farouchement opposés au régime de la Havane, sachant que la Floride est un état clé pour les élections américaines. Il y a quelques jours, le président cubain Miguel Díaz-Canel dénonçait à l'Assemblée générale des Nations unies l'intensification et l'agressivité du blocus américain. Domiti Piron, La Havane, pour Radio Vatican.
32 millions de cas de Covid officiellement enregistrés dans le monde, c'est le dernier bilan de cette pandémie. Les États-Unis, l'Inde et le Mexique restent les pays les plus endeuillés. Le virus est encore très actif au Brésil, si bien que le mythique carnaval de Rio est reporté sine die. Le Pérou, en revanche, et c'est une nouvelle encourageante, a enregistré son plus faible taux de décès depuis 5 mois. Face à cette crise sanitaire, les chefs d'État africains réclament plus de solidarité internationale. Ils suggèrent l'annulation de leur dette publique et le soutien du Fonds monétaire international. Plusieurs s'en sont fait l'écho à la tribune virtuelle des Nations unies, réunie en Assemblée générale. C'est d'ailleurs aujourd'hui que le pape François délivrera son message à cette même tribune. Au Royaume-Uni, le gouvernement a renoncé à présenter son budget cet automne pour permettre au ministre des Finances de préparer un nouveau plan de soutien à l'emploi. Le précédent expirant fin octobre, les partenaires sociaux craignaient un tsunami de licenciements. Devant le Parlement, hier, Rishi Sunak a donc expliqué comment il comptait s'y prendre pour éviter une envolée du chômage. À Londres, Jean Jaffré.
Le ministre des Finances, Rishi Sunak, prend en compte l'évolution de la situation économique du Royaume-Uni 6 mois après le début de la pandémie en mars. Certes, une reprise a été constatée en juillet et août, mais des signes d'essoufflement apparaissent. Le nouveau plan est moins généreux et plus ciblé. Un salarié en chômage partiel à 30% pourra toucher jusqu'à 77% de son salaire, un tiers étant payé par l'employeur, le reste versé par l'État. Ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui seront les bénéficiaires, mais seulement celles qui seront considérées viables. Sont aussi prévus un étalement du paiement de la TVA et un allongement des remboursements des prêts. L'opposition et les syndicats regrettent que rien ne soit proposé pour la formation, alors que l'on s'attend à une forte augmentation du chômage, surtout dans le secteur de la restauration et du tourisme. La Confédération patronale, CBI, pour sa part, accueille favorablement le plan. L'économie britannique est la plus touchée par la crise provoquée par le Covid-19 au sein du G7 et ses pays les plus industrialisés, notamment parce que le secteur des services représente 80% de l'activité. Cependant, une étude montre qu'un échec des négociations sur un accord commercial avec l'Union européenne sera 3 fois plus dommageable pour la croissance que la gestion de la pandémie. Londres, Jaffré Jean, Radio Vatican.
En Italie, les fidèles de Spoleto sous le choc après le vol d'une relique de Saint Jean-Paul II, une ampoule avec quelques gouttes de son sang offerte il y a 4 ans par son ancien secrétaire particulier. Elle se trouvait dans la cathédrale de Spoleto. L'archevêque Monseigneur Boccardo déplore un acte grave et consternant. Dans un message vidéo, il demande à leurs auteurs de restituer la relique. Et puis la nouvelle est tombée hier soir via un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège. Le pape François a accepté la démission du cardinal Angelo Becciu de sa charge de préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Il reste cardinal mais perd tous les droits afférents à cette dignité. Il ne sera donc plus convoqué au prochain consistoire et ne participera pas au prochain conclave. Ce mercredi, donc, l'Union européenne a présenté son pacte sur les migrations et le droit d'asile. Ce plan prévoit par exemple des durcissements sur les renvois de migrants, plus de contrôles aux frontières et une accélération des procédures, avec une difficulté majeure pour Bruxelles, concilier les différentes visions des pays européens, de celles des pays d'Europe centrale et orientale à celles de l'Italie ou de Malte par exemple. Pour ce faire, Bruxelles abandonne le principe d'une répartition contraignante des migrants et a annoncé la fin du règlement de Dublin, optant plutôt pour un mécanisme de solidarité obligatoire. Mais ce principe de solidarité choisi est-il applicable dans les faits? La réponse tout de suite de Leïla Baudeux, elle est chargée de plaidoyer sur les questions asile et migration à Caritas Europa.
Le problème, c'est qu'il est extrêmement complexe, donc c'est une solidarité obligatoire, mais à la carte. Donc la Commission n'a pas voulu imposer des relocalisations obligatoires pour des raisons politiques que l'on connaît, et donc les pays vont pouvoir choisir la manière dont elles veulent montrer leur solidarité. Cela pourra être via la relocalisation ou via le sponsorship du retour d'une personne dont la demande d'asile a été déboutée. Et donc pour nous, ça c'est problématique évidemment de donner un peu l'option de se focaliser davantage sur les retours par rapport à la relocalisation. Néanmoins, il faut souligner qu'il y a quand même des recherches de rendre un peu cette solidarité un peu plus pérenne et plus stable par rapport à la Commission européenne. Donc ça, il faut quand même souligner que c'est positif, même si on a un peu peur par rapport à la mise en place et la pratique, car ce mécanisme est extrêmement compliqué.
L'accord de Dublin est aboli, mais la notion de pays d'arrivée dans l'Union reste toujours. Peut-on au final réellement dire que Dublin n'existe plus?
Donc Dublin n'a pas vraiment été aboli, mais a été un petit peu remodifié. Le nom a disparu, mais le concept reste. Donc il y a toujours ce critère de première entrée dans le pays d'arrivée, qui par défaut, donc une personne qui arrive dans le premier pays d'arrivée, ce pays devra prendre en charge sa demande d'asile. Néanmoins, il y a toute une série d'hiérarchies de critères, comme cela existait sous Dublin. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte, par exemple, s'il y a des liens familiaux avec un autre pays. Alors à ce moment-là, ça sera un autre pays qui sera responsable de la demande d'asile. Mais donc ça, ces mesures de hiérarchie des critères existent déjà. Et ce que l'on peut souligner de positif, c'est que la proposition de la Commission européenne essaye de faciliter les critères liés à la réunification familiale pour déterminer le pays qui prendra en charge la demande d'asile. Par exemple, la Commission a élargi la définition de famille pour y inclure aussi les sœurs et frères. Donc ça, c'est quelque chose quand même de positif.
On parle de raccourcir les délais, d'accélérer les retours. Est-ce que tout ceci est compatible avec le respect des droits humains fondamentaux?
Eh bien, c'est bien là que le bât blesse et qu'il faudra vérifier dans les détails et dans la mise en œuvre. Car il y a plein de délais qui nous paraissent extrêmement courts. Par exemple, certains cas où la personne n'aura qu'une ou deux semaines pour faire appel d'une décision, ce qui est très court si on n'a pas accès à une assistance juridique adéquate, ce qui est souvent le cas sur le terrain. Donc la Commission européenne a inséré plusieurs provisions qui visent à défendre les droits d'asile et à introduire des sortes de safeguards, ce qui est très louable, mais encore une fois, il faudra voir en pratique à quel point cela peut être réalisable.
Et alors, où seront installées ces personnes en attente? Est-ce qu'on n'encourt pas le risque de voir apparaître des situations de rétention administrative, par exemple?
Exactement. Donc ça, c'est une de nos grandes craintes, notamment par rapport à la détention. Donc le texte prévoit aussi que les États pourront détenir les gens pendant les procédures. Et donc on craint que, évidemment, il y ait des détentions massives de plusieurs personnes pendant plusieurs mois, pendant les procédures. On craint aussi qu'il y ait des camps avec des conditions abominables qui soient créés, car pour que toute cette machinerie soit en place et soit efficace, il faut énormément de moyens financiers, techniques et aussi en termes de ressources humaines pour avoir une bonne mise en œuvre. Et donc on l'a vu dans la pratique par le passé, en Grèce notamment, que la pratique souvent est catastrophique et mène à la création de camps et de situations de détention et de souffrance extrême. Donc ça, c'est vraiment notre grande peur par rapport à la mise en œuvre.
Voilà, interrogé par Marine Henriot, Leïla Baudeux, chargée de plaidoyer sur les questions asile et migration à Caritas Europa, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute et de votre fidélité. L'actualité vaticane et internationale revient à 13h avec Delphine Allaire. Très belle journée à toutes et à tous.